pas pu se saluer, mais il y a de la joie de pouvoir partager ces moments ensemble, déjà à travers tout ce qui a été partagé, dit ou communiqué par le chant, par les dons spirituels. Dieu veut certainement nous interpeller. Dieu est vivant, vous le croyez ? Je voudrais qu'on puisse afficher, s'il vous plaît, le texte biblique de ce matin, que pour beaucoup de lecteurs de la Bible, vous connaissez certainement par cœur. Matthieu chapitre 11, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. 11, chapitre 11, verset 28 au verset 30. Jésus va dire ceci, c'est des paroles de Jésus, donc « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus t'appelle ». Jésus t'appelle. Tu peux laisser, s'il te plaît, le texte, j'en ai besoin. Voilà, merci. Jésus t'appelle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il nous dit « Venez ». Il y a trois impératifs dans ce passage. Il y a « Venez »,« Venez à moi ». Et ce sera le premier point que je vais aborder avec vous, c'est cet appel à cette relation avec Jésus, à cette communion avec Jésus. Le deuxième impératif qu'on trouve, c'est au verset 29, hein, « Prenez mon joug ». Et là, c'est un appel à collaborer, à s'associer, à vivre avec, auprès d'eux. Et puis le troisième impératif qu'on trouve, c'est juste après « Recevez mes instructions ». C'est cet appel de Dieu pour nous, de Jésus pour nous, pour être transformés. Au fur et à mesure qu'on apprend ce que la Bible nous dit, non pas comme une science ou, je sais pas moi, une matière qu'on apprendrait à l'école, mais comme une réalité de cœur. Voici que la parole de Dieu a un effet dans nos vies par l'Esprit de Dieu. Et on peut vivre des choses qu'on ne peut pas vivre naturellement. Parce que Dieu fait une œuvre qui n'est pas la nôtre. Il travaille dans nos cœurs, mais ça dépend de mon cœur et de ma vie. Et ce matin, je voudrais donc développer ces trois aspects, surtout le second, un peu plus longuement, avec diverses images. Alors je vais essayer, ça fait 30 ans que j'essaye de suivre mes notes, mais j'y arrive pas toujours. Donc un jour peut-être, l'important c'est que vraiment Dieu soit à l'œuvre dans nos vies. Amen. Hein? Venez, hein, venez à moi, et on peut laisser le texte, ça ne me gêne pas tout le temps de cette matinée, de ce temps de partage biblique. Venez, si c'est un appel à la relation, un appel à la communion. C'est Jésus qui est là et dit à ceux qui l'entourent à ce moment-là, « Venez à moi ». Et souvent dans la Bible, on voit que le Seigneur, dans le Nouveau Testament entre autres, va inviter l'être humain à venir vers lui, à venir le rencontrer, non pas pour voir seulement, voilà, mais pour avoir une relation, une proximité, une communion profonde et particulière. Beaucoup de gens pensent que s'approcher de Dieu, c'est par la religion, par des traditions, par des pratiques. Même si on ne comprend pas trop le sens, on le fait, on le fait. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a appelé directement les personnes. Et il va chercher à faire venir ceux qui ont besoin de lui. Vous remarquez ici, il dira « vous qui êtes fatigués et chargés ». Il ne dit pas « vous qui êtes bien, vous qui n'avez pas de problème, vous qui êtes finalement, voilà, vous méritez d'aller au ciel directement ». Non, il ne dit pas ça. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et la vie ici-bas, ce n'est pas une vie toujours simple, quoique dans nos pays on se plaint, mais on est quand même privilégié, il faut le dire. Mais c'est une vie où on peut être accablé, une vie où on peut être accablé par des pensées, par le fait que Dieu ne soit pas, on ne soit pas en relation avec Dieu aussi, par des choix qu'on a pu faire qui ont été désastreux. Et ce matin, si vous êtes là pour les premières fois, sachez que Dieu vous appelle, Jésus vous appelle à avoir une relation, une communion, une proximité avec lui. Pourquoi ? Pourquoi il nous appelle à ça ? Ben parce qu'on était séparés de Dieu. On a été éloignés de Dieu. On était, même si on pensait parfois à Dieu, on était séparés de Dieu parce qu'il y a une séparation nette et claire. Et le prophète Ésaïe va dire, je vais vous le lire dans une version semeur, il dira « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché, vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. » Et le texte d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, 650 ans avant Jésus-Christ, dit ces choses inspirées par Dieu en disant que le péché, on le voit dans toute la Bible, le péché sépare de Dieu, l'homme d'un côté, Dieu de l'autre, mais il y a une séparation, il y a un empêchement. Et nous étions éloignés. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », c'est un appel à ce que l'être humain, peu importe son origine, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, peu importe ses mérites ou ses capacités ou son argent, sa position sociale, il est invité à s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit que lui seul était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Seul Jésus peut nous rapprocher de Dieu. Seul Jésus peut nous rapprocher de Dieu. C'est ce que dira l'auteur de l'Épître aux Éphésiens. Alors, il parle dans un contexte un peu particulier, mais il dit ceci, Éphésiens 2:13, « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Alléluia. Quand Jésus est mort sur la croix, tout à l'heure, on a chanté que la mer s'ouvre, vous savez, la sortie du peuple d'Israël, qui traverse la mer Rouge sous la conduite de Moïse, mais par la volonté de Dieu, la mer Rouge s'ouvre, il passe. C'est l'image aussi, alors c'est une réalité qui s'est passée, mais c'est aussi, vous pouvez voir des photos d'ailleurs aujourd'hui sur Internet, mais c'est une image aussi de ce châtiment que personne ne peut, que tout le monde doit subir, cette mer qui est infranchissable, mais voici que Jésus ouvre une porte, ouvre un accès pour que celui qui croit, il soit plus sous la condamnation ou le jugement, la mort là dans la mer Rouge, mais il peut être libre, pleinement libre, par la grâce de Dieu. C'est pour ça que dans les évangiles, on voit toujours ceux qui connaissent la grâce de Dieu, les apôtres, dire des choses comme celle-ci, « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Ils vont avoir un appel à se repentir, un appel à dire, écoutez, il faut maintenant régler le problème du péché, et pour régler le problème du péché, ce n'est pas nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Jésus a été condamné à notre place pour que nous soyons dans cette union au Christ, de cette relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et donc, quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », c'est vraiment un appel à venir dans cette relation, dans cette communion. Alors, comment faire? Je vais juste soulever deux points. Comment entamer la démarche pour aller vers Jésus? Parce que Jésus, il n'est pas là physiquement, mais il est là par son esprit. Comment faire? Ben, déjà, il faut reconnaître, si vous ne l'avez pas fait, votre besoin de cœur. Ceux qui venaient vers Jésus, ils considéraient qu'ils étaient fatigués, chargés. Quand ils disent ça, ils le reconnaissent. On va voir un médecin si on est malade, n'est-ce pas? Généralement. On reconnaît qu'on a un besoin. On reconnaît que physiquement, ça ne va pas, donc on va aller voir le médecin, on va faire une démarche, et on va parler de nos symptômes, et puis lui, ou elle, de nous dire de quoi il retourne et ce qu'il faut faire. Et pour connaître la grâce de Dieu, il faut reconnaître notre besoin. Reconnaître notre mal-être, notre péché, ça c'est quelque chose d'essentiel. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi être sauvé de quoi. À quoi ça sert? Combien de gens disent ces choses parfois quand on parle avec eux? Mais quand l'Esprit de Dieu touche notre cœur, on est convaincu de notre état misérable, de cœur. Peut-être beaucoup de choses vont bien, mais notre être intérieur n'est pas satisfait. Il y a des choses terribles qui se passent, on est malheureux, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais voilà, béni soit Dieu, Jésus est venu pour sauver. Pour te sauver, il t'appelle ce matin, il t'appelle. Jésus s'adresse à tous ceux qui supportent de lourds fardeaux. Le passé, pour certains, est tellement chargé de souffrances, de douleurs. Il y a des gens, ils vivent, ils auraient tout pour vivre pleinement, mais voici que le passé a tellement bridé, brisé, humilié, écrasé, oppressé, que ces personnes vivent dans un contexte favorable, mais leur cœur n'y est pas. Et ça, c'est la vie. Mais Dieu... Et c'est celui qui nous appelle par Jésus et qui dit « Venez à moi ». Jésus nous invite à aller vers lui pour recevoir la guérison, le pardon de nos péchés et pour vivre autrement. Première chose, donc reconnaître le besoin de son cœur. La deuxième chose, c'est connaître Jésus et croire en son autorité. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu de tout ton cœur, même si tu ne peux pas tout comprendre, si tu le crois et tu le saisis par la foi, tu peux obtenir cette guérison, ce repos intérieur, ce repos de l'âme. Comme il est dit ici, parce qu'il a accompli des choses extraordinaires, il pardonne tes péchés, il te guérit de ton passé, il guérit même ton corps, il te libère de toute malédiction, de lien occulte, il est le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. En tant que pasteur, on voit des personnes des fois, j'ai connu des personnes qui en quelques jours, ils ont changé complètement, même leur être physique, leur visage a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi la grâce de Dieu. Ce n'est pas une potion magique. C'est une victoire de Christ dans nos vies. Et en même temps, une délivrance de nos péchés, de nos fardeaux. Parce que les fardeaux, les porter tout seul, c'est lourd, c'est compliqué. Mais Jésus a porté à la croix nos fardeaux. Il a porté notre péché. Il a porté nos malédictions. Il a porté tout un tas de choses pour que je sois, moi, au contraire, libéré Alléluia. Dans le livre des Actes, quand Pierre va prêcher, il va dire que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Vous voyez, ils reconnaissent leur état. Ils reconnaissent que, ben oui, ils ont crucifié Jésus-Christ quelque temps avant et ils reconnaissent qu'ils étaient à côté de la plaque et ils disent maintenant, alors qu'ils ont le cœur vivement touché, que faut-il faire ? Que ferons-nous ? Et bien sûr, l'apôtre Pierre va les orienter et va leur dire, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce que la promesse est pour vous, et etc. » Si tu ne l'as pas encore fait ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, Dieu vous appelle à considérer ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a fait une œuvre extraordinaire. Certains ne pensaient que c'est une défaite. Comment ça ? Il est mort à la croix, c'est un échec. Non, c'est le triomphe de Jésus, parce qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Alléluia. Hein, c'est un appel, donc, vraiment, à avoir une communion. Une communion, c'est une relation profonde, intime, hein, une union commune, pourrons-nous dire. Hein, vous savez, Jésus, quand il était sur terre, il va dire cette parole, il va dire en vérité, je vous le dis, le Fils, quand il dit le Fils, il parle de lui, hein, avec un F majuscule d'ailleurs, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père le fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Donc on voit que Jésus, quand il était sur terre, pleinement homme et pleinement Fils de Dieu, il nous a dit qu'il ne faisait rien de lui-même, il avait cette relation avec son Père. Et tout ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait. Et la communion que Dieu veut que nous ayons avec lui, que Jésus veut que nous ayons avec lui, c'est cette même relation, alors à notre niveau, hein, cette même relation, cette relation, comment dire, de telle proximité que, comme une adaptation de ce qu'on voit et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Hein. Nous sommes rendus capables de vivre également cette proximité avec le Seigneur. Vous savez que Jésus va comparer cette relation avec le cep et les sarments, vous vous rappelez ? Hein, le cep et les sarments. Il lui dira, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Le sarment, lui, il porte du fruit, pourquoi ? Parce qu'il demeure dans le cep. Vous n'êtes pas avec moi, je recommence. Si, vous êtes, mais c'est le matin, il a fait orage cette nuit. Hein, voilà, c'est fatigué, vous êtes fatigué. Hein, quand il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, dira Jésus. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez la relation que veut, quand le Seigneur nous dit venez à moi, ça ne veut pas dire venez deux secondes, une minute, une journée, quelques heures, mais il nous invite à venir et à demeurer en lui. Il nous invite à comprendre qui il est pour pouvoir vivre une vie puissante, une vie différente. Parce que mes amis, quand on connaît la grâce de Dieu, on est différent, n'est-ce pas ? Ah ouais, tout le monde dit amen, j'espère, hein, tous ceux qui sont engagés. Quand on connaît la grâce de Dieu, on n'est plus tout seul, on n'est plus perdu, on n'est plus désorienté. Ou en pensant que nous appuyer que sur notre capacité, qui était bien faible. Mais quand on connaît la grâce de Dieu, on sait où on peut aller. On sait à qui on peut s'adresser. On sait que la grâce de Dieu nous touche. On sait que Dieu nous fait grâce, que Dieu bénit au-delà de ce que l'on peut penser et concevoir. Alléluia. C'est un appel à la communion durable. Quelle assurance. Quelle assurance. Mais je voudrais maintenant aller dans le second point. Prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Alors là, cette expression est un peu, comment dire, elle nous encourage pas plus que ça au départ. Hein. Prenez mon joug. Hein. Ce joug, pour certains, tout le monde ne le sait certainement, mais je ne fais que le rappeler au cas où. Hein, c'est cette pièce de bois qui permettait d'atteler deux bœufs ensemble pour tracter un ustensile ou agricole, un engin agricole, ou pour tracter des charges lourdes. Hein, et il y a des choses, c'était impressionnant comment les gens travaillaient à l'époque avec ces éléments-là. Hein, c'était assez précaire, mais c'était utile. C'était un instrument pour aussi d'apprentissage. On associe deux animaux ensemble, et généralement, on prenait le plus expérimenté, et on mettait un autre un peu plus jeune, peut-être, à côté, pour que l'ancien qui savait déjà manœuvrer ou être conduit par ce joug, voici qu'il apaisait l'autre, et il orientait déjà un petit peu, et ça permettait de travailler avec ce joug, c'était un moyen d'apprentissage. Alors quand Jésus dit « prenez mon joug sur vous », on peut penser que c'est incompatible pour trouver le repos, parce que juste après, il va parler du repos, là. Vous voyez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On peut dire, mais le joug, ça sert à travailler, c'est quand même quelque chose qu'on nous met dessus. Comment en trouver du repos? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, déjà, on pourrait dire que le repos provient de cette assurance qu'on n'est plus tout seul, on n'est plus livré à nous-mêmes. Certains de dire que Jésus est à côté de nous, sous l'autre joug, sous l'autre partie du joug, il est à côté de nous. Hein. On n'est plus livré à soi-même, on n'est plus errant. Je ne sais pas vous, comment vous viviez auparavant, mais avant, parfois on vit selon notre bon vouloir, nos aspirations, nos convoitises. Et on voit aussi que ça n'a pas été formidable. C'était terrible parfois. Des fois, il y a eu de belles choses, mais voici qu'il y a eu des choses terribles, des choses qui ont brisé la vie, des choses qu'on regrette même. Et on se disait, si on pouvait remonter le temps, je ne ferais pas comme ça. Hein. Plein de gens me disent ça. Et c'est vrai, hein. C'est pas vrai? Vous ne l'avez pas dit, vous? C'est... Vous aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on avait fait des choix seuls, selon notre propre désir. Mais nos désirs ne nous amènent pas toujours au bon endroit. Souvent, ils nous amènent à l'opposé de ce qu'on souhaitait. Pourtant, au départ, il nous semblait que c'était ça, le chemin. Et puis on voit que le chemin, il est... Voilà. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est Jérémie qui dit ça. Hein. Et c'est une vérité qu'on peut expérimenter facilement. Mais quand on est sous le joug du Seigneur, quand on est d'accord de marcher à côté de lui, de marcher à sa suite, eh bien, nous nous voici assurés. Parce qu'ils sont attelés, il n'y a pas un bœuf qui va là-bas et l'autre là-bas, et puis le joug, il est élastique, il n'est pas élastique. Hein. Le joug, il est une pièce de bois, donc c'était... ils vont ensemble. Et quand quelqu'un accepte de prendre le joug du Seigneur, ce n'est pas un joug, un carcan, ce n'est pas quelque chose qui vous enferme, qui est lourd, qui est pesant, parce qu'il le dit d'ailleurs. Hein. Mon joug est doux et mon fardeau léger, tout à fait en bas. Hein. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu viens vers Jésus, si tu acceptes de recevoir son joug, c'est-à-dire si tu acceptes de collaborer avec lui, de te mettre en soumission à lui, tu vas pouvoir aller dans le chemin que Dieu a dessiné pour ta vie, pour ton cœur. Et ce n'est plus, comment dire, ça ne semble plus être incompatible pour trouver du repos, au contraire. C'est bien quand Dieu nous guide. C'est bien qu'il nous montre le chemin. C'est bien quand la parole me dit, toi si tu fais ça, tu vas aller comme ça, mais il vaut mieux que tu fasses ça. C'est bien que je sois guidé, parce que finalement je ne suis pas Dieu moi. Je ne suis qu'un être humain, mais lui il est Dieu. Et lui il me dit, voilà, marche à mes côtés. Marche auprès de moi. Suis-moi. Accepte d'aller plus loin. Et ma liberté, alors je vais continuer un peu plus, on est conduit, quand c'est comme ça, on est canalisé, quand on est avec le Christ, on est libre de nous-mêmes quand même, on a une liberté de choix, on décide, je suis Dieu ou je ne le suis pas. Il y a des gens, ils pensent que quand, comme on a chanté, je m'abandonne, ça ne veut pas dire je me lobotomise et puis je ne fais plus rien, je suis passif. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire je m'abandonne à te suivre. Parce que je sais que c'est bon, mais je mets ma responsabilité en jeu et je vais te suivre avec mes faibles moyens, mais j'ai confiance en toi parce que toi tu vas m'aider à aller plus loin. Il va m'orienter, il va me cadencer, il va me canaliser, il va m'encourager. Il ne m'impose pas, mais il me montre le chemin. Ne veux-tu pas avoir cet appel ne veux-tu pas entendre cet appel à collaborer? Peut-être que tu es jeune dans la foi, ben, accepte le joug du Seigneur, non pas comme une contrainte parce qu'il est doux et léger, mais accepte le joug du Seigneur parce qu'il est avec toi. Il te conduira, il t'instruira sur la voie que tu dois prendre. Mais pour prendre le joug du Seigneur, il faut se défaire de certains jougs. Parce que dans la Bible, il fait mention de plusieurs autres jougs. Des jougs qui sont pas les meilleurs. Par exemple, quand le peuple était dans la servitude, le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, par la suite, il va dire, alors qu'ils sont sortis dans le Lévitique, il va dire, c'est Lévitique 26-13, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Vous voyez, il y a des jougs de servitude qui peuvent être là. Là, c'était la servitude parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Mais il y a des choses qui rendent, comment dire, qui asservissent l'être humain, qui l'amènent à être soumis, esclave de quelque chose. Il y en a, c'est esclave de certaines passions, d'autres de certaines substances, d'autres de certains comportements, ils sont esclaves, ils sont asservis. Et pour prendre le joug du Seigneur, il faut déjà être libéré des jougs qu'on a déjà sur la vie, dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas mettre deux ou trois jougs en même temps, on peut mettre que le joug du Seigneur ou pas. Ou on garde les autres jougs. Paul parlera du joug de la loi, Vous savez, quand aux Galates, il leur dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Vous voyez, encore une fois, des fois, je peux être chrétien, être né de nouveau, connaître la grâce de Dieu et me mettre un joug moi-même supplémentaire parce que je veux la rectitude, machin, mais c'est humain, c'est charnel et c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est la liberté. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Hein, bien sûr, toute proportion gardée. Il y a aussi le joug des conséquences de retour en arrière, vous pourrez le lire, Deutéronome 28-47. Hein, il nous dit, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit, parce qu'ils sont retournés en arrière. Mais en fait, Dieu n'a pas fait ça pleinement, parce qu'ils n'ont pas été détruits. Hein. Le joug des injustices commises par les hommes. Vous savez, quand Salomon décède, voilà que son fils va devenir roi. Alors les gens ils profitent du changement de roi pour dire bon, il faudrait alléger le joug un peu de ton père là, qui nous a un petit peu pris beaucoup de taxes, etc. etc. Ça, c'est un roi 12-4. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Le gars, il n'a pas compris, il a fait pire et ça a été terrible. Hein. Bon, je fais un raccourci. Il y a le joug des traditions. Hein. C'est ce que dira l'apôtre Paul. Pierre, vous savez, quand ils arrivent dans Acte 15 au concile de Jérusalem, voilà, maintenant, les gentils, c'est-à-dire les non-chrétiens, non-juifs, ils arrivent à la foi. Alors là, on se pose des questions, faut-il les faire circoncire? Faut-il qu'on les fasse respecter la loi? Que faut-il faire? Il y a une forme de un petit peu, pas conflit, mais il y a une discussion, une vive discussion qui va s'engager, et 1 Corinthiens 15, c'est... Acte 15, pardon, c'est le concile de Jérusalem, où là, ils vont parler, ils vont mettre les choses à plat. Et ça va être un temps un petit peu de réflexion, faut-il mettre le joug des traditions dessus ou pas. Et il nous est dit maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Comme pour dire, ça c'est Pierre qui dit ça, pour dire, attendez, faut pas exagérer, hein. faut faire attention, on n'a pas réussi à le faire, alors eux vont pas le faire non plus. Une autre fois, dans l'évangile de Matthieu, voici que les religieux de l'époque, ils viennent voir Jésus et ils vont dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Matthieu 15, 2. « Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. » Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ?» Donc on voit que Jésus il va s'opposer à mettre un joug de tradition sur l'être humain. C'est pas la tradition qui sauve, c'est pas toute la loi, tous ses principes, c'est lui qui nous sauve par sa grâce. Alors comment se défaire de ces jougs-là ? Ben la croix est une source de libération de toute forme de joug. Mauvais, hein ? Parce que par Jésus, nous avons la victoire. Et il y a un texte d'Ésaïe, d'ailleurs, qui est fort intéressant, mais je trouve dans Louis II, il n'est pas bien, à mon avis, la traduction est un peu, nous porte à confusion, mais dans la version d'Arby, Ésaïe 10, 27, il dira « Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Et quand Christ se révèle à quelqu'un, quand Christ se révèle à ta vie, à ton cœur, tu vois, tu comprends que t'as besoin de la grâce de Dieu. T'as besoin qu'il ôte ton péché. T'as besoin qu'il intervienne dans ta vie. Et que tout ce qui te tient captif, ces fardeaux qu'il y a sur ton cœur, ils puissent être ôtés. Parce que Jésus a tout accompli pour qu'ils soient ôtés. Pour que tu sois libre. Complètement transformé. Complètement transformé. Je pense à des personnes, je pense à cette personne qui venait à écouter l'évangile. Et pour les premières fois, elle avait une haine monstrueuse par rapport à quelqu'un de sa famille. Une haine à vouloir la mort de cette personne parce qu'il y avait un passé et un passif. Mais cette personne, à l'écoute de l'évangile, elle était tiraillée dans son cœur. Elle écoutait les messages de l'évangile, elle était bouleversée, elle était attirée par le Seigneur, mais il y avait ça qui la tenait captif. Il y avait ces choses qui la retenaient en arrière. Alors, elle savait qu'il fallait choisir l'un ou l'autre. Elle était toujours comme ça. Au bout de deux ou trois rencontres, je ne me rappelle plus vraiment le nombre, voici que le Seigneur la touche d'une manière personnelle, cette personne-là, cette femme-là. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement bouleversée, elle est complètement changée, et elle dit, elle pleure et elle confesse qu'elle n'arrive pas à pardonner. Et alors qu'elle dit ça, elle demande à Dieu la grâce. Donne-moi de pardonner. Et alors qu'elle dit ça, quelques heures après, elle m'appelle, elle me dit « Oh, incroyable !» Rien qu'à la voix, j'avais compris. « Incroyable !» Oui, oui, tu peux pardonner, oui, je peux pardonner, c'est formidable, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme un fardeau qui est sorti de mon cœur. Alléluia, Dieu est le même aujourd'hui. Fais ça pour toi, si tu veux bien l'accepter. Il arrivera ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Ton fardeau peut être ôté de ton épaule, de ton cœur. Il te pèse, il te mine, il te donne une vie tellement pauvre et triste, mais le Seigneur a changé tout ça, il te donner une vie de victoire. Le joug sera détruit à cause de l'onction de Dieu qui veut toucher ton cœur, qui veut te bénir. Alléluia. Il faut prendre, pour ça, il faut accepter et reconnaître, faire un choix. Il faut d'abord un choix, une décision de l'homme envers le Christ et reconnaître qu'il est bien le Fils de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre, vous affranchira, vous connaissez cela. Donc c'est un appel à collaborer. Puis permettez-moi une autre image et je vais bientôt terminer. Il y a un autre sens du joug. Dans l'Antiquité, les Romains, ils plantaient deux javelots à la verticale, pardon, ils mettaient un autre javelot à l'horizontale, hein, et ils prenaient, eux en tant que vainqueurs, ils faisaient passer sous cette espèce de portique, hein, c'était pas, vous savez, la danse là où on essaie de descendre plus bas, hein, c'est pas ça, hein. Il faisait passer sous cette espèce de portique, en signe de soumission, les chefs et les soldats de l'armée vaincue. Hein, c'est une forme d'humiliation. On les faisait passer, on montrait devant les autres qu'ils étaient déchus, qu'ils étaient vaincus, et que maintenant ils étaient soumis à ce qu'on leur demandait. Donc cette allusion, ça sous-entend cette réalité que le disciple du Seigneur, et en matière de logique spirituelle, lui aussi il se soumet à Christ. Quand il dit « prenez mon joug sur vous » et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug, c'est ça, c'est accepter de vous soumettre, non pas parce que vous êtes terrassé par Dieu, mais parce que vous savez que lui, il a terrassé le péché de votre vie, et on se soumet par volonté et par grâce. Vous vous rappelez, Jacob, un jour, dans Genèse 32, il est là, il sait que son frère Ésaü arrive avec 400 hommes, et il savait, son frère présent auparavant, lui avait dit je le tuerai certainement. Parce qu'il avait magouillé, hein, un petit peu, je vous le dis, mon langage à moi, magouillé, il avait pris le droit d'aînesse à la place de son frère, Ésaü, et donc Ésaü était en colère, et quand ils se sont quittés, 13 ans auparavant, c'était, il valait mieux fuir, parce que lui, il va te faire la peau. Hein. Ils attendaient que le père meure pour faire régler le problème. Et quand il apprend ça, il est complètement terrassé, son frère arrive, 400 hommes, et il est vraiment bouleversé, il est inquiet. Et dans Genèse 32, il nous est dit qu'il va faire partir tout le monde, il va faire partir trois délégations auparavant avec des biens, des ceci, des cadeaux pour essayer d'amadouer le frère. Et il se retrouve tout seul. Il nous est dit qu'il est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse. Il est au plus bas, il est seul là. Mais Dieu, qui est souverain, voit bien que lui, il est dans l'angoisse, mais aussi Dieu dépêche quelqu'un qui est un homme mystérieux, on ne va pas parler longuement de cela ce matin, et il va se battre toute la nuit. Moi, ça m'a toujours impressionné, parce qu'il comprend, Jacob, il comprend que là, il peut être béni par cet homme-là, qui est peut-être plus qu'un homme, hein, il le comprend, et il va dire, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Et il nous a dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange, et l'emboîture de l'ange, Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu. Et vous savez que Jacob, son nom va être changé en quoi ? Israël, hein, celui qui lutte avec Dieu. Il y en a qui disent lutte contre Dieu. Moi, j'ai envie de dire lutte avec Dieu. C'est-à-dire maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera appelé Israël. Hein, il sera appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu. Mais auparavant, il a dû dire, je suis Jacob. Et Jacob, ça signifie, je suis le supplanteur, je suis le voleur. Je reconnais mon état pour pouvoir connaître maintenant, recevoir la grâce de Dieu et le joug du Seigneur sur sa vie. Il faut aussi se souvenir d'une des trois significations du verset qu'on va afficher maintenant, s'il te plaît. Le verset de 2 Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Hein, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous avez vu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alors ce verset, on l'aime bien. On ne triomphe pas toujours, on aimerait toujours triompher, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'il est possible de traduire de trois manières différentes cette expression « toujours triompher en Christ ». Donc, qui nous fait triompher en Christ, première traduction, mais aussi on pourrait traduire « qui triomphe de nous ». Vous voyez, grâce soit rendue à Dieu qui nous triomphe de nous, en Christ et qui répand, ou qui triomphe de nous par Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de ses connaissances. Ça pourrait être traduit comme ça. On aime moins cette traduction, moi je préfère qu'il fasse tout à ma place. Mais on aime moins, mais quand même, le Seigneur a besoin de triompher, n'est-ce pas ? Triompher dans mes résistances, triompher dans les moments où sous ce joug je voudrais peut-être aller là alors que je devrais aller là. Triompher dans ces choses qui sont là. Et puis la troisième traduction qu'on pourrait trouver, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, quand il passait sous le portique, là, sous cette espèce de portique, là où il devait se soumettre, eh bien, la traduction qu'on pourrait dire, c'est qu'il nous amène dans son triomphe. Hein ? Les empereurs généraux romains, quand ils rentraient après des victoires éclatantes, ce qu'ils faisaient, bien sûr, ils emmenaient derrière leur cortège les chefs qui avaient été déchus, qui avaient été vaincus, et on les humiliait d'une certaine manière. Hein ? Et c'est la même chose ici. Qu'on pourrait utiliser, c'est-à-dire grâce au rendu à Dieu qui nous fait toujours rentrer et suivre son cortège de triomphe, c'est le sillage de sa victoire. Hein. La collaboration que Jésus souhaite avoir avec nous ne sera possible que dans la mesure où il triomphe de nous. Ça plaît pas. Alors il nous amène dans son triomphe. Et il y a des résistances parce qu'on est dans ce corps. Il y a la chair, il y a l'esprit. L'esprit, la chair est faible, l'esprit, hein, vous savez, hein, on est là dans un combat permanent, on est toujours un petit peu en opposition, dans une dualité, mais béni soit le Seigneur est avec nous, et il veut que tu collabores avec lui. Il veut que tu te soumettes à lui, non pas par contrainte, parce que son joug est léger, mais il veut que tu sois vraiment encouragé et à le suivre et à t'engager bien plus. Alors peut-être après le chemin du Seigneur depuis des années, tu as un peu sombré, tu peux remettre le texte de départ s'il te plaît en attendant, et tu as peut-être lâché prise, tu t'es laissé fourvoyer, mais le Seigneur ce matin te rappelle qu'il faut revenir sur ce joug, non par contrainte, mais viens volontairement, tu seras béni, tu seras autrement, tu seras victorieux, il va te faire triompher. Il ne veut pas te laisser te débrouiller tout seul. Alors bien sûr, on a besoin de se repentir et de revenir vers lui avec grâce. Alléluia. Je termine par ce troisième aspect. Recevez mes instructions. Cela, c'est un appel à la transformation. Parce que quand on connaît la grâce de Dieu, on est transformé, on est une nouvelle créature. Toute chose devient nouvelle. C'est formidable, c'est extraordinaire. Mais il y a encore des choses que je dois apprendre dans le temps. Le pardon, le salut est là, mais je dois apprendre à vivre dans plein de domaines de ma vie différemment. Ce n'est pas toujours simple, mais Dieu est avec moi et il m'encourage. La transformation. C'est-à-dire, ce que je lis, c'est bien de connaître plein de passages, mais est-ce que je la pratique ? Est-ce que je comprends ces choses ? Comme dira l'auteur, comme Jacques dira dans son épître, il dira « Heureux, ne soyez pas des auditeurs oublieux qui écoutaient, puis voilà. » Mais heureux celui qui pratique la parole, celui qui comprend, mais qui va la comprendre concrètement. C'est ce qui fait toute la différence, la théorie à la pratique. Vous rappelez les deux maisons que Jésus va citer, hein ? Les deux maisons identiques. Les deux maisons vont connaître des intempéries assez particulières. Cette nuit, ça a tapé, hein ? Hein, vous avez entendu l'orage. Il y en a qui m'ont dit « Non, je dormais, mais vous avez le bon sommeil. Hein » Ou bien vous étiez dans un endroit pas ici. Hein ? Ouais, je vois que vous avez aussi, vous avez eu l'orage. Hein ? Ces deux maisons, il y a eu la pluie, nous dit le texte biblique, dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Il y a eu le torrent, les vents ont soufflé fort. Tout ça s'est jeté contre la maison. Hein ? Voilà. Et voici ce que dira Jésus, Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, alors là, mes amis, vous voyez, on est mal parti là, hein, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Quand le Seigneur dit « recevez mes instructions », ce n'est pas juste « connaissez mes instructions », intellectuellement, les principes, eh bien, il dit « recevez, appliquez, vivez », parce que c'est ainsi que vous tiendrez ferme. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime à tous. Alléluia. Sous quel joug êtes-vous, je conclue. Sous quel joug êtes-vous ? Encore sur des jougs qui sont malheureux pour vous, eh bien, ce matin vous pouvez être délivré de ce joug-là. Vous pouvez être débarrassé de ce joug-là en regardant au Christ. Christ est toujours celui qui peut vous sauver, vous délivrer, transformer votre vie, vous pardonner, vous donner un nouveau départ dans la vie. un nouveau départ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense à plein de personnes, alors je ne vais pas le dire. Hein. Quel joug ? Si c'est un mauvais, ben sachez que le Christ peut vous en libérer. Le joug sera détruit grâce à l'onction de l'Esprit de Dieu qui vous révèle l'amour du Père. Êtes-vous sous le doux joug du Seigneur ? Le doux joug du Seigneur, c'est difficile à dire. Hein. Si c'est votre cas, alléluia, oui, gloire à Dieu. Vous comprenez qu'on peut faire face aux situations dans notre vie, et même les situations les plus angoissantes parfois, parce qu'on n'est pas tout seul. On a accès au celui qui est tout puissant. Et puis aussi, il nous fait triompher. Ou il triomphe de nous. À lui soit la gloire. Permettez-moi de lire une citation et je conclue par cette citation, je vous promets. L'esprit de crainte et de méfiance dans les choses spirituelles n'est pas moins nuisible. De même, le trouble provenant de ce que nous cherchons dans nos propres efforts et dans nos propres forces. Les bénédictions spirituelles qui ne viennent que d'en haut. Comment le cœur angoissé peut-il être tranquille et l'esprit inquiet calmé ? Que me faut-il ? Il me faut du repos. Comment le trouverai-je ? En m'inclinant et en prenant sur moi le joug précieux de Christ qu'il porta lui-même dans les jours de sa chair. Joug d'une entière soumission à la volonté de Dieu, il faut que je puisse dire sans la moindre restriction et du plus profond de mon cœur, ta volonté soit faite, ô Dieu. Il faut que j'aie un sentiment si réel de son amour parfait envers moi et de son infinie sagesse dans toutes ses voies à mon égard, que je n'y voudrais rien changer, lors même que je le pourrais. Amen. On prie ensemble, vous voulez bien ? Encore bon offrant. Si vous êtes encore sous le joug, d'autres jougs qui ne sont pas bons pour vous, ben nous invitons bien sûr à revenir, écouter l'évangile, le mardi soir par exemple, c'est plus court et plus simple, peut-être plus facile, mais aussi nous croyons que Dieu peut faire grâce ce matin. Il peut vous libérer de ce joug. Cherchez Christ. Cherchez à comprendre qui est le Christ. Priez-le. Essayez d'aller plus loin, parce qu'il se laisse trouver si on le cherche de tout son cœur. Hein. Il se laisse trouver par lui, si on le cherche de tout son cœur. Alléluia. Ce matin, nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es toujours le même pour sauver, délivrer. Oui, tu es celui qui veut vraiment faire éclater ces jougs de servitude, ces jougs qui ont tellement avili l'être humain, tu veux rendre réellement libre. Et je te prie pour tous ceux qui ont besoin de cette grâce dans leur cœur, qu'ils y aspirent mais ils ne savent pas trop comment faire. Seigneur, révèle-toi leur vie. Bénis-les par ton esprit, éclaire leur cœur, montre-leur ta grâce, montre-leur ton amour, montre-leur combien tu as été patient et tu veux sauver leur vie. Oh oui, tu es le Fils de Dieu et tu veux faire grâce. Pour nous qui connaissons, nous voulons te demander toute ton aide pour continuer à cheminer sous ce joug, non par contrainte, mais par amour. Nous voulons te suivre et nous voulons te plaire. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur. Amen.